Bonjour Roland Nurier.
Bonjour.
Le conflit israélo-palestinien est un sujet récurrent dans nos médias. C'est un sujet qui est pourtant flou pour beaucoup, je crois, en tout cas en France. Votre film, Le Char et l'Olivier, une autre histoire de la Palestine, permet de beaucoup mieux comprendre ce qui s'y passe. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce film d'abord ?
D'abord, merci de me recevoir, mais pardonnez-moi de dire que les grands médias, et souvent les médias tout court, parle de conflit israélo-palestinien, et moi je me bats pour dire que non, c'est pas un conflit, parce qu'un conflit ça sous-entend deux États qui se font la guerre, ou tout du moins deux armées qui s'affrontent, et là c'est pas le cas. Là on a une armée d'occupation, l'armée israélienne, qui colonise les terres, donc depuis 73 ans, et en face on a, pour faire court, des gamins qui jettent des cailloux, voire une organisation de résistance, le Hamas, qui de temps en temps jette des roquettes sur la colonie d'à côté. Donc déjà, je trouve qu'à la base, dire conflit, c'est pas juste, quoi, parce que il y a un occupant, un occupé. Ça, c'est factuel et incontestable. Donc voilà, alors, ce qui m'a poussé à m'intéresser à cette zone Palestine-Israël, d'abord, ça fait des décennies que je m'y intéresse. J'ai lu un nombre incalculable de bouquins, vu des films, documentaires, des fictions, etc. Et j'ai franchi le pas en 2014 lors d'un premier voyage dans les territoires occupés. Je savais ce qui allait s'y passer, mais quand on est confronté au quotidien des Palestiniens, on en revient vraiment bouleversé. Mais c'est vrai pour tous les gens qui sont allés en Palestine. J'ai souvent discuté avec des gens qui étaient allés en Palestine, et ils me disent « mais oui, ce que tu as vécu, on l'a tous vécu, on revient défait, quoi ». Et on se dit, mais c'est pas possible. Comment nos médias nous relatent ces événements? Et quand on est confronté au quotidien, il y a un grand écart. Et moi, l'idée du film, c'était de, entre guillemets, modestement rétablir des vérités, mettre une grande partie d'historique, parce que si on n'a pas compris le passé, on ne peut pas comprendre le présent. C'est pour ça que les 20 premières minutes du film, on passe à expliquer ce qu'était le sionisme, ne pas confondre avec le judaïsme, etc. Que l'idée d'avoir un État pour les Juifs, entre guillemets, c'est une idée qui est bien, bien antérieure à ce qu'ont vécu malheureusement les 6 millions de Juifs exterminés par l'Allemagne nazie. Bon, l'idée de la création d'Israël, c'est une idée coloniale. Il faut arrêter de se raconter des histoires. Et ça c'est une période où coloniser des terres, fin 19e, début 20e, c'était presque normal. Donc on était une période de grande colonisation, l'Angleterre avait colonisé, la France pareil, et finalement c'était dans une logique occidentale.
Vous parlez de ce que ça fait de repartir de Palestine et de ce que vous avez vécu la première fois que vous êtes allé là-bas. Comment ça se passe dans les faits quand on arrive en Palestine pour la première fois ?
Alors déjà, pour aller dans les territoires occupés, je ne parle pas de Gaza, hein, mais dans les territoires occupés, ce qu'on appelle la Cisjordanie, on est obligé de passer par Tel Aviv. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Tel Aviv, c'est une ville européenne. Je veux dire, c'est Nice, on fait la fête. C'est une ville très mixte et ça n'a rien à voir avec l'Orient. En revanche, quand vous passez effectivement dans les territoires occupés de Cisjordanie, vous avez par exemple à Jérusalem, à Hébron, à Naplouse, etc. Là, vous êtes vraiment en Orient parce que vous voyez des vieilles villes qui ont plusieurs centaines d'années. Et donc là, c'est un choc. Et surtout, le choc, il est quand on vit au quotidien avec les Palestiniens, ce qui a été mon cas. J'ai vécu dans des familles palestiniennes, parce qu'on était hébergés dans des chambres d'hôtes, des choses comme ça. Des familles palestiniennes, je m'empresse de dire, de culture musulmane, puisque les musulmans sont très majoritaires, évidemment. Mais aussi des familles palestiniennes de culture chrétienne, parce qu'il y a encore des chrétiens, même s'ils sont très, très, effectivement, minoritaires en Palestine. Et c'était intéressant, parce que c'est bien nos médias français qui nous entraînent dans la logique de dire que c'est une guerre de religion. Pas du tout. Pas du tout. Les Palestiniens chrétiens musulmans sont des frères, ils vivent ensemble. Moi, j'ai vu des Palestiniens chrétiens qui allaient sur l'esplanade des mosquées manifester avec leurs frères musulmans. C'est pas du tout un problème de religion. C'est vraiment une occupation des terres, du colonialisme pur et dur, comme on l'a vécu au 19e et au début du 20e siècle. Ça n'est pas autre chose. Et c'est expliqué dans Le Char et l'Olivier, une autre histoire de la Palestine, par des journalistes, des historiens qui connaissent très 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 bien le sujet, quoi. Voilà.
Plus que colonialisme, ou en tout cas peut-être autant, il y a un autre mot très récurrent dans le film, c'est apartheid. C'est un mot qu'on utilisait jusque-là pour l'Afrique du Sud. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ce mot est adapté à la situation dans cette zone Israël-Palestine ?
Alors, il est adapté parce que c'est très similaire avec ce qu'ont vécu les Noirs d'Afrique du Sud. Bah, apartheid, parce que déjà, il y a apartheid en Israël, sur les territoires même d'Israël d'aujourd'hui, puisque, je le rappelle, 20% de la population israélienne est d'origine palestinienne, d'accord ? 80% sont juifs. Et justement, ces 20% de Palestiniens israéliens qui ont la citoyenneté israélienne n'ont pas les mêmes droits sociaux et économiques que les 80% de Juifs israéliens. Donc ça, par définition, c'est de l'apartheid. Apartheid aussi dans les territoires occupés, parce qu'il faut comprendre qu'il y a à peu près 800 000 colons complètement illégaux installés en Cisjordanie, ce qu'on appelle la Palestine occupée. Ces colonies sont toutes réunies par des routes, protégées par des murs, par des barblés, etc. Et ces routes sont interdites aux Palestiniens. Par exemple, un Palestinien qui a ses terres plus loin de son village natal, séparé par le mur, par exemple, va par exemple être obligé de faire 40 km pour contourner, aller à un point de passage, à un checkpoint, pour venir, par exemple, cueillir ses olives. Et donc, par définition, ça, c'est de l'apartheid. Sur une même terre, quand on n'a pas les mêmes droits, je suis désolé. Et ça me met souvent en colère parce que nos grands médias, autant on parle de l'apartheid d'Afrique du Sud, parce qu'on va dire que c'est d'histoire passée, même si tout n'a pas été résolu en Afrique du Sud, notamment d'un point de vue économique. Mais on va dire qu'au moins aujourd'hui, un homme, une voix, qu'il soit blanc ou noir, d'accord, ce qui n'est pas le cas dans les territoires occupés. Et nos grands médias français, ce mot apartheid appliqué à Israël, ils ont du mal à le dire et ne le prononcent jamais parce que Israël, c'est sacro-saint, on ne peut pas en dire du mal. Et d'ailleurs, vous voyez bien que dès lors qu'on a un regard critique sur la politique israélienne, on a vite fait de vous taxer d'antisémite, etc. Mais ça, on pourra peut-être en reparler. Mais là, la ficelle est trop grosse, quoi. Je veux dire, on a le droit d'avoir un regard critique sur la politique d'un pays sans être... C'est une infamie de nous taxer d'être antisémite parce qu'on critique le sionisme. Le sionisme, c'est une idéologie politique. J'estime qu'on a le droit d'avoir un regard critique, quoi. Et la politique israélienne, il me semble, est quand même très critiquable parce que, par exemple... Netanyahou, en 2018, a fait voter en juillet 2018 la loi sur l'État-nation qui ne donne pas les mêmes droits aux 80% de juifs qu'aux 20%, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'origine palestinienne. Ça, c'est spécifiquement une situation d'apartheid. Et l'apartheid, donc, dans les territoires occupés, ben, les Palestiniens le vivent tous les jours parce qu'il faut comprendre que pour se déplacer, il y a, je ne sais plus combien, 200 ou 300 checkpoints qui sont installés, des checkpoints fixes ou on va dire éphémères volants, tout ça pour empêcher les déplacements, pour empêcher les Palestiniens de vivre normalement, d'avoir une économie normale qui est faite d'échanges, de produits qui rentrent, qui sortent, etc. Et c'est vraiment l'idée, c'est de leur pourrir la vie, parce que en fait, c'est des empêcheurs de tourner en rond. On veut prendre leur place. Mon ami Pierre Stamboul, le porte-parole de l'Union juive française pour la paix, parle pas de génocide, il parle de sociocide. C'est le mot, pour lui, c'est le mot plus juste. On veut, en fait, c'est une négation de leur histoire. Il faut qu'ils disparaissent, ces Palestiniens, parce qu'on veut leur prendre la place. Et c'est pour ça que les colonies se développent. C'est vraiment une stratégie. C'est une stratégie de la terre, de grignoter la terre. On les expulse de leur maison. Les Palestiniens qui vivent là depuis plusieurs générations, on leur vole littéralement leur maison. Moi, je m'occupe avec d'autres d'une famille palestinienne qui est partie de Bethléem parce que leur maison de leur village était immédiatement à côté d'une colonie. Ils ont fini par partir parce qu'on leur a brûlé leur tracteur, commencé à brûler leur maison, tagué leur mur en leur disant « sale arabe, partez, vous n'êtes plus chez vous ». Ça, c'est le quotidien des Palestiniens. Et en ce moment, il y a un regain à Jérusalem-Est, parce qu'il y a des mouvements de juifs sionistes extrémistes qui, appuyés par l'armée israélienne, en ce moment, là, j'ai reçu encore des messages hier, qui sont en train de voler des maisons avec l'appui de l'armée pour expulser les Palestiniens. C'est absolument insupportable. La France, le pays des droits de l'homme, ne dit mot, n'a pas un regard critique. De temps en temps, on élève légèrement la voix en disant « Non, il faut que vous ayez Israël, que vous ayez soyez mesurés dans vos bombardements, etc. » Mais c'est insupportable à entendre. Il faut condamner cet État, qui est un État voyou, colonial, qui viole les droits des Palestiniens depuis 73 ans. Il faut oser dire les choses.
Et comment vous expliquez que les Palestiniens ne baissent pas les bras, justement, après 73 ans de répression contre leur résistance, de colonialisme, ils continuent d'être, de se défendre et s'en baissent, en fait, de leur résistance, quoi.
Et en fait, c'est dit à un moment par Amir Hassan, c'est un jeune Gazaoui que j'ai interviewé chez Stéphane et Christian Essel. Il dit, mais on n'a pas le choix de résister. C'est soit on part quand on peut partir, évidemment, quand on a les autorisations pour partir. Ça, à la limite, ça arrange des fois les Israéliens. Soit ben, on est condamné à résister. Et cette résistance, il faut comprendre qu'on est à la 3e ou 4e génération après la création de l'État d'Israël. Cette résistance, elle est transmise de génération en génération. C'est ancré dans leur culture. C'est vraiment, ils ont ça dans les tripes. Moi, j'ai pu le vérifier en rencontrant les Palestiniens. La symbolique de la clé. Bon, quand des familles palestiniennes ont été expulsées en 48 de leur territoire, beaucoup ont gardé la clé. Moi, je l'ai vu, la clé pendue au-dessus de la télé. C'est, je veux dire, avec l'idée qu'un jour, on va retourner dans notre village. Mais c'est vraiment un symbole fort, parce que ce village, probablement qu'il n'existe plus. Il a été rasé par Israël. Il y a eu des villes israéliennes qui ont été construites dessus. Mais ça ne fait rien. C'est ancré dans leur culture. C'est transmis aux gamins. Et là, le nouveau film que je suis en train de préparer, « Yalla Gaza », on est allé faire une séquence d'un vieux monsieur qui a été expulsé. Il avait 10 ans quand il a été expulsé. Il s'en souvient très bien. Il a raconté devant la caméra et il montre la clé de sa maison. Et son père, son grand-père et son père lui ont répété « Garde bien cette clé, un jour on reviendra chez nous ». C'est terrible, c'est triste, mais c'est un symbole fort qui est vraiment ancré dans la culture. Et la résistance des Palestiniens, d'abord c'est un droit fondamental reconnu par les Nations Unies, d'accord ? Et oui, ce que je peux dire, c'est ancré, ils ont ça en eux, et moi qui les connais quand même bien, je sais qu'ils ne lâcheront pas. Il faudra les exterminer, mais ils ne lâcheront pas. Et Elias Sambar le dit à un moment au début du film, on ne partira pas, ceux qui sont là ne partiront pas, parce qu'ils savent que s'ils partent, ils ne pourront pas revenir.
En France, vous avez dit plus tôt, c'est très difficile de critiquer la politique israélienne, sans être taxé d'antisémite. Y a un flou qui est entretenu entre l'antisionisme et l'antisémitisme. Qu'est-ce qui explique ça? Quelles sont les volontés derrière d'entretenir ce flou?
Les grands médias notamment entretiennent le flou entre vous critiquez Israël, donc vous critiquez la politique sioniste, et vous êtes un antisémite. Ça, c'est pour nous faire taire. C'est pour faire taire toute critique d'Israël. On vous montre du doigt dès lors que vous êtes critique à l'égard d'Israël. Et je rappelle que vous pouvez critiquer la politique de Trump, on ne vous taxe pas d'anti-américanisme, et la politique de par exemple, de Poutine, on vous dit pas que vous êtes russophobe. Mais par contre, si vous critiquez Israël, vous êtes taxé d'antisémitisme. Et ça, c'est la ficelle est trop grosse. Maintenant, ça passe plus, d'accord ? Et pourquoi il est si difficile de critiquer la politique israélienne ? Il y a plusieurs raisons à ça. Il y a le poids de la culpabilité européenne qui continue de peser. Parce que comme me disent les amis palestiniens, dans les discussions que j'ai pu avoir avec eux, Roland, je te rappelle que le drame qu'ont vécu les Juifs, ça s'est passé chez vous, hein. Ça s'est passé en Europe. Et les responsables sont des Européens, des Occidentaux. Nous, les Palestiniens, on paye ça souvent, on nous le met dans le nez, mais on n'a rien à voir avec votre histoire, quoi. Donc il y a ce poids de cette culpabilité. Il y a le fait que la création d'État d'Israël, c'est une création occidentale. C'est, et ça c'est les historiens qui le disent, et moi j'ai recoupé plusieurs fois, j'ai lu un certain nombre de bouquins, c'est le porte-avions occidental au milieu des pays arabes. Géopolitiquement, Israël est déterminant pour les pays occidentaux, pour l'Europe, mais peut-être encore plus pour les États-Unis. C'est la tête de pont. Donc on défend Israël quoi qu'il fasse. Israël bombarde des femmes et des enfants, des populations civiles, on ferme les yeux. Toutes les résolutions des Nations Unies, on ferme les yeux, elles ne sont pas appliquées parce que c'est Israël. Quand la Russie envahit ou l'Ukraine, etc., on va lever des sanctions. Israël peut faire ce qu'il veut, on ne lèvera jamais aucune sanction. Alors, il y a une raison principale, c'est qu'il y a le droit de veto américain. D'accord ? Et les Américains sont un soutien inconditionnel d'Israël, puisqu'ils versent 3 ou 4 milliards de dollars tous les ans. Mais Israël a des accords commerciaux avec l'Europe, avec la France, est devenu le chantre des systèmes de surveillance très sophistiqués. Et ça, ça intéresse beaucoup les pays occidentaux dans nos démocraties. Vous avez remarqué qu'on a de plus en plus de systèmes de surveillance. Et Israël s'est fait vraiment un spécialiste de ce type de technologie, les vend au monde entier, les vend même en Arabie Saoudite, par exemple, ce qui est terrible, a des accords de coopération avec tous les grands pays arabes, est devenu presque un partenaire, je mets plein de guillemets, indispensable, ce qui fait que c'est toutes ces raisons qui font qu'aujourd'hui, on ferme les yeux sur les exactions israéliennes, ce qui est un scandale absolu. C'est le seul pays au monde qui se permet ce type d'exaction, de bafouer les droits fondamentaux des Palestiniens. Et ça, ça va encore durer quelques temps. Il y a un motif d'espoir, c'est la Cour pénale internationale, puisqu'il y a des dossiers de plaintes qui ont été déposés et qui sont en cours d'instruction. L'instruction vient de démarrer. Alors le temps juridique va être un temps long, évidemment. On ne sait pas quand ça va aboutir, mais il y a quand même plus que des présomptions de crimes de guerre commis par l'armée israélienne en Cisjordanie et encore pire à Gaza lors des derniers bombardements en 2014. Même là, au mois de mai, quand il y a eu des bombardements, je le sais pour avoir rencontré un des avocats qui défend la Palestine, il est de Lyon, il y a de nouveau des dossiers de plainte qui ont été déposés. Donc on va dire que ça, c'est un des petits motifs d'espoir pour arriver à faire plier Israël. L'autre élément, c'est ce qu'on appelle le BDS, Boycott des investissements sanctions, qui est un mouvement de boycott qui a été lancé par la société civile palestinienne dans les années 2000, qui marche moyennement, on va dire, en France, même s'il y a des petites victoires, mais qui quand même prend de l'ampleur dans les pays anglo-saxons, notamment en Angleterre et dans les pays du nord de l'Europe. Donc quoi qu'en dise Israël, ça leur plaît pas, parce que c'est très mauvais pour leur image de marque. Donc voilà, je vous dis ça pour pas noircir trop le tableau, même si à court moyen terme, l'avenir des Palestiniens est encore très 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 compliqué et très difficile, mais il faut aussi garder espoir, parce que tout à l'heure, on a parlé de la résistance des Palestiniens, et eux, l'espoir, ils l'ont. Donc on n'a pas le droit de baisser les bras, nous, par solidarité. Si toutefois on est solidaire avec le peuple palestinien, on se doit de garder espoir.
Vous êtes documentariste et réalisateur autodidacte. Comment on fait pour déjà apprendre à réaliser un film, et surtout réaliser un film sur un sujet aussi difficile que celui-là, et dans lequel vous avez sûrement tourné dans des situations aussi très difficiles? Comment ça se passe qu'on n'a jamais eu de formation dessus?
Alors, moi, je suis passionné de cinéma depuis très longtemps, depuis l'adolescence. Les codes du cinéma, finalement, je les ai compris, quoi. Où placer sa caméra, etc. Enfin, voilà. Mais quand on fait un documentaire, souvent, vous avez vu, c'est des interviews. Donc là, c'est plutôt facile à organiser. Après, les images d'illustration, j'en ai tourné en Palestine, mais c'est des images un peu volées dans la rue. C'est avec un petit moyen, parce que d'abord, on ne pose pas son pied au milieu de Jérusalem en disant on va la refaire, etc. Bon, voilà. Alors, comment on fait? D'abord, on se lance. Ça, j'ai longtemps hésité. D'abord, on lit beaucoup, beaucoup de bouquins. On recoupe beaucoup, beaucoup d'informations. Et ça a été mon cas, parce que faire un film sur Palestine-Israël, j'ai bien conscience qu'on marche sur des œufs. Hein. Il me semble qu'il faut beaucoup de rigueur intellectuelle. C'est ce que j'ai essayé d'avoir en recoupant des informations, par le choix de mes interviewés. D'ailleurs, dans Le Cher et l'Olivier, une autre histoire de la Palestine, je rappelle que la majorité de mes interviewés sont des juifs. Alors journalistes ou de la société civile, mais qui ont un regard évidemment critique. Moi, j'avais pas envie d'entendre BHL ou Finkielkraut, hein, on est d'accord. Ben, eux, ils squattent les plateaux télé, donc j'ai pas du tout envie de les entendre. Moi, j'avais envie d'entendre des juifs à qui on ne donne jamais la parole. D'avoir leur regard critique sur la politique israélienne, ça me semblait déterminant de les avoir devant moi. Donc, on prend des rendez-vous. Ce qui est plus chronophage, c'est ça, parce qu'il faut se caler par rapport à souvent des gens très occupés, les gens du monde diplomatique ou autre. Donc, on s'adapte. On prépare bien les interviews, parce qu'il ne faut pas faire ça en amateur. On n'a pas le droit de dire des bêtises. Et au préalable, effectivement, ce que je vous disais tout à l'heure, on a lu un nombre incalculable de bouquins, on a recoupé des informations, notamment sur le nombre des victimes à Gaza, etc. Moi, je me suis appuyé sur le travail de dossier d'ONG que j'ai recoupé pour être sûr de mes chiffres. L'histoire, on l'apprend au travers des bouquins, on lit plusieurs types de bouquins, etc. Et puis on arrive à se faire sa propre opinion, et puis à construire une trame. Et puis après, on essaie de suivre sa trame au travers des interviews. Et le film, vous avez vu, il est un peu découpé comme si c'était plusieurs chapitres. Hein, l'histoire, le droit international, le droit à la résistance, etc. Que j'ai fait répéter par plusieurs personnes, d'ailleurs, parce que c'est, à mon avis, déterminant quand j'entends dire dans les médias Israël a le droit de se défendre, ouais, ok, peut-être que l'Israël a le droit de se défendre contre le peuple qui l'opprime, hein. Ça les journalistes ne le disent pas, mais oui, Israël a le droit de se défendre, mais contre quoi? Donc ce peuple opprimé qui a le droit à la résistance, donc le droit à la résistance, qu'elle soit violente ou non violente, à mon avis, elle est respectable. Et donc, voilà, l'idée du film, c'était aussi de faire de la pédagogie, de repartir dans l'histoire pour comprendre le présent et d'expliquer que le droit à la résistance, c'est un droit fondamental, que les Palestiniens ont ce droit à la résistance et que j'en ai marre d'entendre traiter les Palestiniens de terroristes. C'est insupportable. Je ne suis pas en train de défendre le Hamas, mais quand même, quand le Hamas envoie des roquettes sur la colonie d'à côté, c'est un geste de résistance. Il est certes peut-être condamnable, mais si on condamne ce geste-là, il faut au préalable avoir condamné l'occupation. L'occupation complètement illégale en regard du droit international. Tous les jours, on vole les maisons des Palestiniens, donc il me semble que c'est un peu normal qu'ils résistent, quoi. Donc voilà, l'idée du film, c'était de rétablir cet équilibre modestement à ma façon, en développant une trame qui, j'espère, était digeste, quoi, voilà.
C'est quelque chose de très récurrent de mettre le nom terrorisme sur des personnes qui résistent, aussi bien pendant la Seconde Guerre mondiale qu'en Algérie, qu'en Palestine et en Israël. J'ai l'impression.
Oui, et d'ailleurs, si vous vous souvenez, dans le film, j'ai acheté auprès de l'INA une interview du général de Gaulle. Interview en novembre 67, pendant la guerre des six jours, où le général de Gaulle explique, face caméra, enfin, lors de sa conférence de presse, que, bien sûr, il y a une résistance à Israël, parce qu'Israël vole des territoires, occupe des territoires illégalement, et va se développer face à eux une résistance qu'Israël va qualifier de terrorisme. C'est le général de Gaulle qui dit ça. Aujourd'hui, vous n'avez pas un homme politique qui osera tenir ses propos.
Oui, mais c'est le même général de Gaulle qui occupait l'Algérie à ce moment-là.
Oui, c'est vrai, mais en tout cas, ça a été dit. Et bon, après, il y a eu la décolonisation. Enfin, il y a eu la décolonisation avant, en 62. D'accord ? La décolonisation de l'Algérie, c'est 62. Hein. Donc, oui, mais et là, je vous parle d'une conférence de presse en 67.
Mais en 62, la France accuse les résistants. Enfin,
oui, tout à fait. Ah, mais des résistants sur leur territoire, on a vite fait de les qualifier de terroristes. Et effectivement, nos résistants à nous, dans les années 40, étaient qualifiés par Vichy et les nazis de terroristes. Donc oui, moi je me bats contre ça, quoi. Je veux dire, on peut condamner la violence, mais il y en a marre. Faut pas dire n'importe quoi. Quand on résiste au vol de vos terres, vous êtes des résistants. Et c'est Nelson Mandela qui dit c'est l'oppresseur qui choisit le type de résistance que vous allez mettre en face. Si l'oppresseur est violent, ben, vous allez être obligé d'être violent aussi. Et aujourd'hui, qui qualifierait Nelson Mandela de terroriste? À part l'extrême droite, plus personne. C'est quelqu'un, il me semble, de très respectable dans son parcours. Donc oui, c'est très très facile de faire ce raccourci. En face, on a des terroristes. Mais d'ailleurs, c'est récurrent et c'est dans la rhétorique israélienne, ça. De dire que, vous voyez, on protège notre population parce que, bon, je la fais court, mais on a construit un mur, mais derrière, ce sont des terroristes arabes qui veulent nous jeter à la mer. Et ça, c'est fait partie de la propagande israélienne, quoi. Et moi, je me bats contre ça, quoi.
Quand l'actualité dans cette zone ne s'arrête jamais, qu'il y a toujours de nouvelles choses, comme dernièrement, il y a eu plusieurs semaines de conflits entre les deux, enfin d'envoi d'énormément de roquettes de la part d'Israël, et enfin des échanges, on va dire, de tirs. Comment on fait pour arrêter de filmer un film? À quel moment on se dit « Ok, il faut que j'arrête ce film », sachant que l'actualité, l'histoire ne s'arrête pas?
Bah, disons que déjà, le film, il a été fait avant les derniers événements, hein, puisque le film, il est sorti en novembre 2019. Il se trouve que là, je fais un nouveau film, Yalla Gaza, et franchement, l'écriture et les films, on a commencé les tournages avant les derniers événements du mois de mai, puisqu'on a commencé les tournages au mois de février. Mais moi, enfin, il faut comprendre que là, effectivement, il y a eu les Palestiniens, notamment de Jérusalem, se sont révoltés contre le vol, mais ça, le vol de leur terre et le vol de leur maison, c'est récurrent depuis 40 ans. Hein. Mais là, il se trouve que c'était tellement flagrant, il y a eu un mouvement de solidarité à Jérusalem-Est, dans des villages attenants, pour lutter contre le vol de leur maison et les agressions des colons sionistes. Et effectivement, par solidarité, Le Hamas à Gaza a envoyé des roquettes, hein, pas des missiles, c'est un peu moins puissant, des roquettes sur la colonie d'à côté, et même, je crois, de temps en temps sur Israël, mais par solidarité, pour leur dire, mais arrêtez, quoi. Donc, effectivement, ça, Israël s'en est servi de prétexte pour bombarder massivement, et là, pour le coup, avec des missiles, des immeubles entiers. Moi, j'ai des vidéos, c'est des immeubles entiers qui ont été bombardés, sous prétexte que dans l'immeuble, il y avait une personne du Hamas. Mais voilà, alors ça c'est arrivé au mois de mai, donc moi mon film il est antérieur, mais pour y aller à Gaza, on va en parler forcément, mais comme vous dites, je rappelle que si au mois de mai on a remis d'actualité la Palestine du fait de ces roquettes, bombardements, etc., les bombardements sur Gaza, je le sais pour communiquer régulièrement avec le collègue Gazaoui qui travaille pour moi, c'est presque tous les jours, on n'en parle jamais, et c'est souvent la nuit. Et je l'ai dit hier au débat, mais quand le collègue Gazaoui m'envoie un message WhatsApp en me disant l'immeuble d'à côté, il y a un missile qui a traversé, qu'est-ce que je réponds, moi? Je suis à des milliers de kilomètres, je lui dis, mais tu fais quoi? Tu te caches? Alors donc, ils vont dans une pièce qu'ils espèrent qu'elle est un peu plus sécure que les autres, ils ont deux petites filles, ils bouchent les oreilles de leurs petites filles, ils ferment les yeux, ils attendent que ça passe. Ça, c'est le quotidien des Gazaouis. Hein. Israël bombarde quasiment tous les jours, pour ainsi dire, donc pas qu'au mois de mai, hein, d'une façon moins massive. Et effectivement, les médias n'en parlent pas. Les médias n'en parlent pas. Pourquoi ils font ça? C'est une stratégie. C'est pour maintenir dans la terreur la population Gazaoui. C'est pour les empêcher de résister. C'est pour leur dire, voyez, c'est nous qui sommes les maîtres. On vous bombarde, on a le droit de vie et de mort. C'est nous qui décidons. Mais c'est vraiment ça. Et moi, ce qui m'a intéressé pour faire ce nouveau film Yal à Gaza, c'est, je me dis, mais comment ils font, quoi? Ils continuent de faire société. Gaza continue de faire société.
Vous pouvez nous en parler un peu plus de ce film de...
Oui, donc il s'appelle Yal à Gaza, on est à peu près à mi-parcours. Donc comme il n'est pas possible de rentrer à Gaza, ça m'a été impossible, j'ai essayé par plusieurs canaux, mais je n'ai pas réussi. Donc je travaille avec un réalisateur gazaoui, francophone, qui a fait ses études de cinéma en France. Et je lui ai délégué la partie des tournages et des séquences à Gaza. Moi, je me suis réservé la partie avec mon équipe des tournages d'interviews à Paris. On doit aller à Londres, à Bruxelles. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Mais l'idée du film, l'idée forte du film, c'est on est enfermé, on est 2 millions de personnes sur 456 km². Eh bien, on continue de faire société. Ce n'est pas la guerre civile, même s'il y a des tensions entre le Fatah, donc le Fatah c'est l'état central de Ramallah en Palestine, et le Hamas qui a le pouvoir à Gaza, puisqu'ils ont été élus, même s'il y a des tensions, effectivement de temps en temps, hein, tout n'est pas rose, mais néanmoins on continue de faire société alors qu'il y a pourtant plus de 60% de chômage, qu'il y a un taux de pauvreté extrêmement élevé. Il y a une solidarité entre les Gazaouis qui est absolument fabuleuse. On continue de faire société, on continue d'envoyer nos enfants faire des études. Mais franchement, c'est le peuple palestinien est un des peuples les plus éduqués du Moyen-Orient. Hein, on le sait par les chiffres. Et ben voilà, il y a de la solidarité entre nous. Il y a tout un tas d'ONG et d'associations qui viennent en aide aux plus démunis. On développe la culture. J'ai demandé à mon collègue Yad Alastal, réalisateur gazaoui, de me faire des séquences au milieu de destruction, suite aux destructions du mois de mai, de jeunes garçons et filles, voilés, pas voilés, chrétiens, musulmans, etc., qui dansent ensemble le dabke, qui est une danse traditionnelle, et c'est fabuleux. Ils ont la banane, et c'est transmis pareil de génération en génération. Cette culture, cette motivation pour s'éduquer, pour essayer d'aller vers une autonomie alimentaire, mais ça c'est compliqué, mais il y a des associations européennes, mondiales, qui les aident. Voilà, c'est tout ça qui finalement continue de faire société, et c'est ce qui me fascine, quoi. C'est pas la guerre civile, et il y a une solidarité et une envie de vivre qui est absolument démentielle et qui pour moi, force le respect.
Et donc, qui sont ces personnes que vous allez interviewer à Londres, à Paris et à Bruxelles ?
Alors, à Londres, je dois aller interviewer deux historiens, dont un qui est bien connu, qui est un historien israélien, qui fait partie de ce qu'on a appelé les nouveaux historiens israéliens, qui s'appelle Ilan Pappé, qui a écrit un fabuleux bouquin il y a quelques années déjà qui s'appelle « Le nettoyage ethnique de la Palestine ». Donc autant vous dire qu'il est antisioniste, qu'il a un regard extrêmement critique sur la société israélienne. Et d'ailleurs, il est professeur d'université à côté de Londres, parce que pour lui, ce n'est pas possible de vivre en Israël, ce n'est pas possible de vivre dans cette société. Donc je vais l'interviewer parce que c'est intéressant pour moi d'avoir évidemment son point de vue et son côté historique. Et l'autre historien, il s'appelle Thomas Suarez. Alors, comme son nom n'indique pas, il est pourtant britannique. Il a écrit un fabuleux bouquin que j'ai lu il y a 2 ans, qui s'appelle « Comment le terrorisme a créé Israël ». Et il a épluché les archives de l'armée anglaise pendant le mandat britannique, de 1922 à 1948. Il a épluché une partie des archives israéliennes. Il en a dressé une liste absolument exhaustive de tous les attentats commis donc dans les années 30, 40, par les groupes paramilitaires sionistes, ce qu'on a appelé la Haganah, le groupe Stern, qui allait donner naissance plus tard à l'armée israélienne. Attentats commis donc contre les Anglais, considérés par les sionistes comme l'armée d'occupation, parce qu'ils voulaient la place pour créer leur État. Attentats commis contre les Palestiniens, les Arabes palestiniens, pour leur dire « bon, vous voyez bien que vous n'avez plus votre place ici ». Mais ce qui est intéressant, attentats commis contre les Juifs palestiniens, d'accord, qui eux ne voulaient pas d'un État sioniste. Eux, ils voulaient continuer de vivre avec leurs frères musulmans ou chrétiens, comme c'était le cas depuis des générations en générations, dans l'Empire ottoman et encore bien avant. Parce qu'on a passé, dans l'histoire, le fait qu'il y avait des Juifs palestiniens. Ça, le mot juif palestinien, là, dans la société israélienne, ça a beaucoup de mal à passer. Et pourtant, c'est un fait. Moi, c'est des historiens qui me l'ont raconté. Donc, ce bouquin est absolument fabuleux. Comment le terrorisme a créé Israël. Et c'est pour moi intéressant d'avoir Thomas Suarez devant moi pour qu'il me raconte comment la genèse de ce bouquin et comment il est arrivé à toutes ces analyses. Et voilà. Alors, ça, c'est ce qui est prévu à Londres. C'était prévu dans l'été, mais vu la situation sanitaire, on a été obligé de reporter ça. On va peut-être faire ça à l'automne. Et Bruxelles, pourquoi ? Parce que je connais un couple de franco-israéliens qui a fait le choix, pareil, de quitter Israël, parce que pour eux, c'est des antisionistes, bien sûr, c'est des gens de gauche qui défendent le droit des Palestiniens. Ils l'ont fait une partie de leur vie en Israël, mais ça devenait tellement insupportable qu'ils ont fait le choix de quitter Israël, de tout quitter, hein, et de venir vivre à Bruxelles. Et voilà, bah, eux, moi, je veux capter le regard qu'ils ont de la société israélienne, quoi. Donc voilà, ils ont un petit enfant et ils ne pouvaient pas continuer de le laisser, qu'il continue à aller à l'école et entendre des horreurs, quoi. Sans cesse, oui, on a construit un mur pour vous protéger. Derrière, c'est des Arabes qui vous jetaient à la mer. Mais je le répète, mais c'est vraiment la rhétorique dans la société israélienne. Et je dois aussi interviewer à Bruxelles ce qu'on appelle un refusnik, c'est-à-dire c'est un jeune qui a refusé de faire l'armée dans l'armée israélienne. Et donc, il est passé par la casse-prison, parce que c'est un délit. Et lui, pareil, quand il est sorti, il ne pouvait pas continuer de vivre en Israël. Donc, il a fait le choix de venir à Bruxelles. Donc, bon, il est anglophone, on va faire ça aussi en même temps. Et c'est intéressant d'avoir son regard sur qu'est-ce qu'on leur a demandé de faire dans l'armée, donc d'aller déglinguer du Palestinien. Et lui a une conscience politique. Il dit non, moi, je ne peux pas faire ça, quoi. Donc, cette société, elle n'est pas faite pour moi. Il est parti. Parce qu'on parle peu des Israéliens qui quittent Israël. Nos grands médias ont tendance à parler des Juifs qui se sentent soi-disant en insécurité et qu'on encourage à aller vivre en Israël. Mais il y a aussi le mouvement inverse qui est très, très, très important aussi. Voilà.
Vous pouvez nous rappeler le nom de ce film ?
Donc, ce film s'appelle Yalla Gaza. On est à peu près à mi-parcours. On espère qu'il sera prêt avec la post-production, on va dire, au printemps prochain. Et alors, comme il nous manque de l'argent, parce que quand on veut faire un film sur Palestine et encore plus sur Gaza, vous imaginez bien que pour trouver des financements, c'est quand même assez compliqué. Donc après des refus du CNC, de la SCAM, j'ai quand même trouvé un début de financement auprès de la Fédération internationale des droits de l'homme, un autre début de financement auprès d'une association qui est l'émanation de la Fondation de France qui s'appelle Un Monde par Tous, dont la présidente d'honneur est Christiane Hessel. Donc voilà, ça m'a permis de démarrer, de commencer à payer les équipes de Gazaoui, les équipes françaises qui travaillent avec moi. Bon, il nous manque de l'argent parce que la post-production, après, derrière, c'est ce qui coûte le plus cher. Donc, il y a un financement participatif qui a été lancé il y a un mois et demi sur le site Hello Asso, Donc les gens qui ont envie de participer à ce projet, ils vont sur Elo Asso, ils tapent Pierre Lagasa, et puis ils peuvent être donateurs du film et ils seront remerciés au générique. Mais oui, je fais un appel parce qu'on a vraiment envie de le boucler, ce film, parce que pour nous, il est important de parler des Gazaouis enfermés, condamnés, quoi, quelque part. Et c'est non seulement injuste, mais d'un point de vue du droit, c'est complètement illégal et c'est insupportable de savoir que la communauté internationale soutient ça, quoi. En tout cas, ne condamne pas Israël. Et moi, je me battrai jusqu'à la fin de mes jours pour que Israël soit condamné.
Et qu'est-ce que ça signifie, Yalla Gaza ?
Alors, Yalla Gaza, alors, Yalla, c'est en arabe, c'est on y va, vas-y, allons-y, etc. Ça a plusieurs significations. C'est utilisé beaucoup en Palestine. Yalla, on y va, voilà. Okay. Donc, c'est un titre sur lequel on s'est mis d'accord avec mon ami Gazaoui. On avait plusieurs titres et on est tombé là-dessus. Et on trouve que ça résume bien l'idée forte des Gazaouis qui résistent.
Bah, merci beaucoup pour ce temps que vous m'avez accordé.
Merci beaucoup à vous et à vos auditeurs.
مين إرهابي؟ أنا إرهابي كيف إرهابي وأنا عايش ببلادي مين إرهابي؟ أنت إرهابي مكلني وأنا عايش ببلادي قتلني زي ما تلت إجدادي أجل الخنون عن فاضي ما أنت يا عدو بتلعب دور الشاهد المحامي والقاضي علي قاضي نهايتي بادي حلمك انقل فوق معنى آلية حلمك لآلية تصير بالمقابر أكترية ديمقراطية والله انكم نازية من كتر ما اغتصبتوا النفس العربية هبلت ولدت ولد اسمه عملية انفجارية وهنا ديتنا إرهابية يعني ضربني وبكيت سبعتني واشتكيت لما ذكرتك انك بديت نطيت وحكيت ما انتوا بتخلوا ولاد صغار المحجار ما لهمش أهل يدبوهم بالدار ايش كنو نسيت انه استحق ضب الأهل تحت الأشجار وهلا لما وجع الفار بتناديني إرهابي مين إرهابي؟ أنا إرهابي كيف إرهابي وأنا عايش في بلادي؟ مين إرهابي؟ أنت إرهابي ماكلني وأنا عايش في بلادي ليش إرهابي؟ عشان دمي مش هادي حامي عشان رافع راسي وأرض بلادي قتلوا حبايبي أنا لحالي أهلي تشردوا راح أضلي أنادي أنا مش ضد السلام السلام ضدي علي بده يقضي تراثي بده يمحي واللي بيحكي كلمة بشد ورا همة بيكون زلمة تعملوا منه رمة ومين أنتوا لسه إمتى خبرتوا اطلعوا قديش قتلتوا قديش قدمتوا أمياتنا بيبكوا أبياتنا بيشكوا أراضينا بيخطفوا أنا بقولكم مين أنتوا أنتوا كبرتوا في دلع إحنا كبرنا في فقر مين كبر في وسع ومين كبر في جحر صار في داعي عملتوا منه إجرامي وأنت يا إرهابي بتناديني إرهابي
مين إرهابي؟ أنا إرهابي كيف إرهابي وأنا عايش ببلادي؟ مين إرهابي؟ أنت إرهابي ماكلني وأنا عايش ببلادي أنت ببطل إرهابي لما تضربني كف وأعطيك خدي تاني كيف تتوقع مني أشكر الأذاني؟ تعرف إيش أنت أولي كيف دخياني؟ راكع ركبي وإيدي مربطات عيون بالأرض وجثث مزتتات بيوت مهدومة عائلات مشردات أطفال يتيمة حرية بكلبشات أنت أمر أنت قتل إحنا بنقبر ما علينا بنصبر وجعنا بنستر أهم شي إنك تحس بأمان اتريح وسيب لنا الآلام معه دمنا دم كلاب حتى لا لما الكلب يموت في الرفق بالحيوان يعني دمنا أرخص من دم الكلاب لا دمي غالي رح أدافع حالي لو تناديني إرهابي
مين إرهابي؟ 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 أنت إرهابي